Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à voyager avec moi dans ce monde merveilleux du berger des étoiles?
Oui,
c'est parti!
Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs et les auditrices, c'est Lucie pour Radio Bartas au 107 FM. Aujourd'hui, je me trouve aux côtés de Hélène Gers, je prononce bien ?
Oui,
super. Depuis La Joie Encore, qui est un lieu de résidence d'artistes et de spectacles à Saint-Laurent-de-Trèves. Hélène qui va présenter juste après cet entretien son spectacle Le Berger des Étoiles et le tout suivi d'une collation conviviale. Bonjour Hélène.
Bonjour Lucie.
Hélène, tu es une artiste complète avec un parcours hyper éclectique. Tu exerces dans de nombreux domaines et tu as exercé dans de nombreux domaines. Tu as été, alors je vais peut-être pas tout citer, mais assistante de réalisation, conceptrice en storyboard, coloriste, comédienne. Tu es directrice aussi artistique et metteuse en scène, formatrice, intervenante scolaire, autrice, peintre et clown. Et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, conteuse. Sur ton site, tu es d'ailleurs décrite comme fileuse de contes, tricoteuse de mots ou encore semeuse de graines, faisant germer l'imagination et invitant à la sagesse. Et donc c'est aujourd'hui ce domaine, le conte, qui va nous intéresser, et plus précisément le métier de conteuse. Tout d'abord, ma première question, ça aurait été, avec un tel parcours, qui est très varié, pourquoi t'être tournée vers le conte et avoir fait du conte un de tes métiers principaux ?
Alors tout simplement parce qu'avant je travaillais dans le dessin animé, parce que j'aimais beaucoup dessiner, et je me suis rendu compte qu'au bout de 4 ans, en fait on travaillait tous en équipe, c'était très hiérarchisé, et puis le travail se faisait lentement, et j'ai récupéré en fait la tradition orale de conteur de mon père, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, car le conte en fait va représenter toutes ces images mentales et permet au public d'être co-créateur. Donc il y a beaucoup de créativité qui va se jouer autant pour le conteur que pour les personnes qui sont en face. Et c'est un art du présent, c'est-à-dire tout se passe instantanément et il y a une magie, une sagesse. Et en fait, dans le dessin animé, ce qui m'intéressait, c'était les histoires et de ne pas tout mâcher pour le public. Donc ça laisse une part qui est universelle et qui permet à chacun de communiquer de cerveau à cerveau. Maintenant, découvre que les animaux ont un langage, hein, et ce langage, ce sont les images mentales que chaque être vivant sur cette terre a en commun. Donc c'est, en fait, c'est retrouver la source de la communication universelle.
Et du coup, ce parcours varié, donc là on peut l'entendre au niveau du conte, ça te sert, ça te nourrit?
Ça me nourrit énormément et c'est le seul métier, parce que je suis quelqu'un qui est curieuse, qui a envie de faire plein de choses. C'est le seul médiateur, l'art qui ne me lasse jamais. J'ai toujours émerveillée par les contes, par la relation au public, par ceux qui... Parce que quand je conte, je sens que tous mes ancêtres sont avec moi. Je ne suis pas toute seule. Et c'est un moment de convivialité, un moment très précieux. Donc quand c'est réussi, c'est vraiment fabuleux, quoi.
Balnéaire qui sort. Ah oui, bah, j'en ai du temps. Alors, vous donnez votre langue au chat ?
Oui.
On va partir un petit peu sur ce processus pour créer le conte. Comment tu choisis un conte, toi ? Est-ce que c'est le conte qui te choisit ou c'est toi qui le choisis ? Comment ça se passe au niveau des thèmes, etc. Est-ce que tu as des thèmes de prédilection pour les contes ?
Alors évidemment, le thème de prédilection, il y est depuis toujours, hein, c'est la nature et particulièrement les fées.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les fadas, c'est ceux qui sont fêlés et c'est ceux qui conversent avec les fées.
Donc les fées représentent en fait tout ce monde invisible et magique et amènent le tout possible quand on a l'impression que la situation est bloquée, est impossible et que c'est désespéré. La fée est là pour nous amener sur notre dimension. Et en fait, la fée, elle va représenter tout ce mystère de la nature et ces voix qui sont inaudibles. Alors, c'est avec le cœur qu'on peut les entendre. Et je me dis que le conteur, la conteuse que je suis, la fileuse de contes, elle est là pour donner la parole à ce monde invisible, pour rendre visible le monde invisible. C'est un peu ce que je fais en peinture aussi.
Peut-être parce que ce sont les gardiens des secrets et des mystères de la nature.
Tu as du coup différentes manières de travailler au sein même du conte. Tu fais du conte chanté, tu utilises du coup tes peintures. J'ai vu également que tu avais des instruments de musique. Je sais que tu as fait du clown, donc tu dois aussi utiliser le corps, j'imagine. Qu'est-ce que ça apporte ça au conte et pourquoi est-ce que tu aimes utiliser d'autres médiums à travers le conte ?
Alors en fait, j'essaie de trouver la sobriété, mais ce qui est simple est compliqué. Donc en fait, ces outils m'ont beaucoup aidé, le storyboard notamment, à visualiser. Le clown à être proche des émotions et proche de moi-même, mais le conteur et le clown ne sont pas sur les mêmes registres puisque le conteur est au service du conte et le clown au service de l'émotion. Donc en fait, les deux ont nourri mon parcours scénique. Et puis, il y a aussi, en fait, on dit que le conteur va utiliser quatre cordes. La corde du corps, la corde de l'émotion, le cœur, la corde du mental pour construire ces images et la corde de l'imaginaire qui est quand même la plus grande. Donc en jouant avec toutes ces cordes, ces apports extérieurs nourrissent un peu comme un violoniste qui va faire ses gammes sur son violon et tenter des sons.
À la fonde énime, y a un métier que fa des fleurs blanches comme des papiers.
Est-ce que tu as un fil rouge de ce que tu veux transmettre, toi, dans tes contes au public? Qu'est-ce que tu veux transmettre par-dessus tout à travers les contes?
Alors, par-dessus tout, donc ça fait longtemps que je fais ce métier, hein, depuis 1995, donc ça fait 30 ans. Et à l'époque, c'était pas tellement à la mode, hein, c'était de défendre la nature, parce que déjà, je voyais que ça commençait à déborder. Et non pas la défendre en étant militante, chacun a son rôle, hein, moi, c'était pas le mien. Moi, c'était par la poésie, par la douceur, par l'émerveillement, parce que l'émerveillement, c'est quand même ce qui fait que nous sommes tous sur Terre et que nous survivons. Si on enlève l'émerveillement, l'art s'éteint, tout s'éteint, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus cette vie. Donc le fil rouge, c'est ça. Et les fées, ce sont vraiment elles qui vont amener ce fil rouge. Moi, c'est ma sensibilité. Donc je suis très proche de la nature, j'ai la chance d'avoir des relations particulières avec les arbres, etc. Donc j'ai fait un spectacle sur les arbres. Mais derrière tout ça, il y a ce monde vibrant qui a énormément de choses à nous dire et sur lequel, si on prenait le temps de l'écouter, tout viendrait de soi. Hein. Le respect, on se sent nourri. Maintenant, les scientifiques découvrent que le feu a des vertus, mais... Bon, voilà, si on est à l'écoute de ses sens, on se rend compte que ben, c'est pas la peine de faire des réflexions, ce qui est très bien de faire actuellement parce que les gens se sont coupés de leur sens profond, et que, en fait, tout ça nous nourrit et qu'on peut faire corde et corps avec. Donc, joie encore, c'est le bon lieu pour compter ça, parce que c'est ça, c'est cette joie. Et puis, bon, la nature a aussi des drames, donc elle va nous raconter beaucoup de choses, mais c'est toujours mieux d'être amis et de sentir que, ben, une fois qu'on est en lien, les choses vont se passer beaucoup plus sereinement, quoi. Donc, il y a beaucoup de sens. Voilà, le bon sens. Ça a l'air de rien, ce mot, hein, mais le bon sens... C'est quand même un mot très fort. Et la nature nous donne beaucoup de bon sens.
C'est la nuit où les étoiles filantes sont les plus nombreuses dans le ciel. Et par cette belle nuit étoilée, Bélugue naît.
Toi qui es cévenole, du coup, tu t'inspires beaucoup de la nature. C'est un de tes vecteurs de création principal.
Oui, tout à fait. Et le monde onirique.
On va y revenir justement à ce monde onirique, parce que un jour une conteuse m'a dit, donc c'est Clémentine Magira, donc si elle passe par là, je l'embrasse très fort. Conter, c'est rêver devant les autres, et c'est être vulnérable, afficher une certaine vulnérabilité devant les autres, et ça nécessite d'aller chercher quelque chose à l'intérieur de soi, qui est assez profond. Et donc il y a une part de l'intime qu'on révèle au public. Tu parlais de ce monde qui est onirique, qui est un petit peu spirituel peut-être. En quoi le conte pour toi justement c'est spirituel et ça peut aller chercher des choses qui sont du domaine du non palpable?
Alors c'est la base du conte pour moi puisqu'il travaille sur le symbolique, le monde universel et le monde magique. Et le conte, en tant que conteuse, ce que j'apprécie, c'est que le conte se dit au présent dans les traditions orales, puisqu'il va défendre le présent. Il nous parle comme une chaîne d'être humain à être humain, ça peut remonter à la préhistoire, mais il va nous parler de ce présent qu'on a tous en lien, quelle que soit notre culture, quel que soit l'espace dans lequel on vit, quelles que soient les générations. Donc, la parole a un rôle différent de l'écrit. Et l'orature, moi je défends l'orature, c'est cette magie de la parole, de l'instinct, et elle ne peut se faire qu'au présent. Il y a beaucoup de confusion chez les conteurs qui vont conter au passé comme si c'était de la littérature orale. Mais le mot littérature orale inféode l'orature, puisque c'est un art à part entière, qui va travailler beaucoup sur ses images mentales. Donc en fait, évidemment qu'on va donner de l'intime et de soi, mais c'est un intime, c'est là où on rejoint le clown, universel. On part de l'individu pour aller vers le collectif, vers l'universel. Et cet intime est protégé par le manteau du conte. Puisqu'on dit que le comédien, le masque du comédien, des fois, nous fait faire des choses incroyables. Eh bien, pour le conteur, le conte, c'est le masque du conteur. Donc, on peut s'appuyer sur lui, on n'est pas tout seul. Donc, il nous protège de notre intime. Ceci dit, quand même, nous sommes tout nus sur la scène. On n'a pas de nez, on n'a pas de costume, oui, on a la peau du conteur. Mais c'est vrai qu'on est vulnérable et fragile. Mais c'est là-dedans qu'en fait, la subtilité va pouvoir jouer quand on y arrive à se mettre dans un état de réceptivité. Hein. Pour toucher le public, il faut se laisser toucher. Et puis, ça nous engage. Hein. C'est on mouille notre chemise.
Je pense à vous tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Mon cœur bat la chamade. Mademoiselle, je dois l'avouer. Il faut que je vous demande votre main.
On n'est pas du tout dans la même relation quand la parole est libre et vivante et non apprise par cœur que quand il y a un filet de texte derrière qui a été bien travaillé avant. Donc nous, on travaille le monde imaginaire. Mon père a travaillé comme ça, ma grand-mère travaillait comme ça. Je suis allée dans des tribus orales chez les Tamazirt. Je suis allée dans des lieux où les gens ont une tradition orale dans des cultures différentes. Et toujours, on retrouve cette relation au présent et à la parole libre.
Et comme il s'avance, effectivement, là, dans un tapis de fleurs blanches, il voit une fontaine magnifique, il y a une clairière et toutes ces étoiles qui brillent de mille feux dans le ciel.
Au niveau de ta manière de travailler le conte, tu travailles le conte traditionnel. J'ai vu aussi que tu faisais des entretiens avec des gens pour faire des récits de vie. Et tu es aussi écrivaine, donc il y a une part d'écriture. Quelle est la place du renouveau dans le conte, entre la partie un peu traditionnelle où on reprend et on l'adapte, ou la partie absolument création où on fait quelque chose de très personnel et de neuf?
Alors en fait, la force de l'oral, j'insiste, je suis très insistante là-dessus, c'est qu'en fait, à chaque génération, quand la parole est libre, on va garder la structure du conte et on va la libérer de ses oripeaux qui sont attachés à une période, à un contexte. Quand c'est écrit, comme les frères Grimm par exemple, après c'est contextualisé, à l'époque c'était dans le patriarcat, donc après on va remettre en question les contes, mais les pauvres, ils n'y sont pour rien. C'est qu'ils ont été contextualisés dans une culture de l'époque qui était patriarcale et hiérarchisée, donc, et le conte va être jeté alors que son fond n'est pas ça. Donc la puissance de l'oral, c'est qu'à chaque génération, ça se réadapte parce que les images changent et on décrit nos images. Donc les jeunes générations vont avoir des images différentes que les anciennes générations. Et les mots vont être différents. Mais le sens profond des contes est là, c'est-à-dire c'est la structure qui va amener beaucoup de sagesse. C'est comme un diamant un peu, hein, le charbon va devenir du diamant. Donc moi, je n'ai pas la prétention de faire des contes aussi puissants que les contes traditionnels anciens, mais je les réadapte avec mon univers d'aujourd'hui. Et quand je crée des contes, je dirais plutôt que comme chaque personne, j'écris des histoires qui vont peut-être un jour devenir des contes. Ils ont la structure du conte, mais ils n'en ont pas la prétention. Donc, s'ils touchent des gens, bah, tant mieux. Si dans une génération, ils touchent encore des gens, encore tant mieux. Et s'ils continuent, c'est qu'ils vont devenir contes et ils ne m'appartiendront plus. Mais si la génération suivante, bien, les gens se lassent de cette histoire parce qu'elle ne les intéresse plus, puisque ce n'est plus actualisé, eh bien, c'est que ça sera juste une histoire. Voilà.
C'est super intéressant, j'avais jamais conscientisé la chose comme ça. Mais justement, en parlant de ça, et donc on l'a évoqué un petit peu avant, ton père est conteur, et sur 4 générations, il me semble, tes grands-mères aussi étaient conteuses. Est-ce que le conte, pour toi, ça permet de faire des liens transgénérationnels? Et quelle en est l'importance?
Ben c'est essentiel, en fait, c'est la définition du conte, c'est de passer les générations. Donc quand on dit que le conte, une histoire peut devenir un conte s'il passe les générations, un conte qui s'enracine dans un territoire peut devenir une légende, et une légende est là pour réactualiser le mythe. Et ensuite, comme le mythe, tout le monde y croit, même inconsciemment, en fait, ça revient dans l'inconscient de tout le monde, et celui qui va créer une histoire va être influencé par le mythe. Donc on ne sait plus qui de la poule ou de l'œuf est venu en premier. Et c'est très important parce que c'est intergénérationnel. C'est la transmission. Disons qu'il y a des choses qui se passent d'être humain à être humain. Une vie d'être humain est très courte. On n'a pas le temps de tout faire à une existence. Heureusement qu'on reçoit les acquis des générations d'avant et qui évoluent au fur et à mesure. Alors après, ça peut faire du passéisme. C'est se servir de toute cette richesse acquise et faire le tri entre les pépites et la boue. Et les pépites, je pense que le conte fait partie des pépites. Et il nous relie, puisque cette universalité va justement concerner la personne âgée, le petit bébé, l'enfant, l'adulte, tandis que les contes ne sont pas là pour endormir les enfants, mais pour éveiller les adultes. Et espérons que ça réveille.
Oui, c'est ça.
On en a bien besoin. Comme je vous l'ai dit, je suis issue d'une tradition orale de conteurs depuis plus de 4 générations. Mon père est conteur, ma grand-mère l'était aussi, mon arrière-grand-mère était conteuse, elle habitait Mayways. Et chaque année, elle préparait des petits pots de confiture d'églantine qui étaient délicieuses.
Donc il y a une grosse partie où c'était tes grand-mères, tu as eu la transmission du conte par les femmes. Quelle est la place des femmes dans le conte et en tant que conteuse? Est-ce qu'il y aurait des choses à dire ou non?
Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'en fait, quand il y a eu l'époque patriarcale avec les frères Grimm, etc., bon, je dis eux, mais il y a aussi Alphonse Daudet, enfin ils sont nombreux dans l'affaire, hein, ils ont déconsidéré le conte. Parce que le conte au temps des druides, c'était très important, hein, au Moyen-Âge aussi, il y avait des jongleuses, enfin bref. Et là, on arrive dans une période où on va dénigrer le conte, on va considérer que c'est un sous-art, on enlève l'orature du dictionnaire, donc on décide que ça n'existe même plus, c'est énorme quand même, hein, quand arrive l'imprimerie de Gutenberg. Et du coup, on dit que c'est des contes de bonnes femmes. Mais s'il n'y avait pas eu les bonnes femmes en question, les nourrices, parce que les nourrices, elles nourrissent à tous les niveaux, hein, spirituellement, au niveau du lait, au niveau de tout. Et donc, ces nourrices ont été elles qui ont perpétué le conte avec leur langage, parce que souvent, elles manquaient de culture puisqu'on ne leur donnait pas. Donc, elles ont eu son rôle de nourricière. Elles ont eu ce rôle très important de nourricière. Et puis après, il y a eu Henri Pourrat, etc., tous ces auteurs qui ont repris des enregistrements avec le langage paysan. Et là, dans ce langage paysan, toute la structure était préservée, alors que dans la littérature, où ils étaient beaucoup plus raffinés, ils ont modifié des choses pour que ça rentre dans le contexte politique et social, alors que chez les paysans, il y avait ce bon sens de la terre, où ils ont bien gardé la profondeur du propos. Donc les femmes ont eu ce rôle-là, et puis c'était souvent les transmettrices. Mais en fait, comme dans le conte, tout est une affaire intérieure, ça nous parle de notre psyché, à l'intérieur de chaque être humain, il y a du féminin, il y a du masculin. Et si on les met en conflit, la personne, elle va vivre très mal sa vie. Hein. Donc, le but dans chaque conte, c'est de retrouver l'équilibre entre ces deux pôles, puisque c'est notre monde de nous-mêmes avec nous-mêmes, avec les valeurs universelles qui font qu'on a tous un dénominateur en commun, même si on est tous différents.
Tu utilises de l'occitan dans tes contes. Pourquoi et qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que du coup ça a fait des changements par rapport au français?
L'intérêt, c'est que moi, quand même, mon père est un écrivain occitan, un conteur occitan. Il travaille à l'université d'Occitan, donc Jean Guerre, c'est connu dans ce domaine. Et que moi, je n'ai pas appris ça. Ma grand-mère parlait l'occitan, mais je ne l'ai pas appris, donc je ne vais pas faire semblant de le parler alors que je ne l'ai pas appris. Mais les chants occitans ont beaucoup de force. Ils sont d'une poésie incroyable, c'est quand même la langue des troubadours. L'occitan, c'est pas un ramassis de patois, c'est une vraie langue très riche. Bon, les troubadours, ce sont quand même des gens qui ont eu beaucoup d'influence sur la poésie de tous ces états. Et c'est très imagé, quand je dis qu'on travaille sur les images, l'occitan est une langue très imagée, très forte. Et ce n'est pas une sous-langue, comme l'oralité n'est pas un sous-art. Donc, je lui fais des clins d'œil avec ce chant qui est universel et qui va nous faire rêver ensemble. Donc pour moi, ça veut dire que je viens de cette terre. Ma terre, c'est pas la mienne, mais c'est là où mes racines comme un arbre sont installées. Elle vaut pas mieux que d'autres lieux, mais c'est celui qui m'est cher.
Il frappe à la porte, elle est toute courcoussounée. Vous savez ce que ça veut dire, courcoussounée? Ça veut dire toute vermoulue. Et quand il frappe, elle s'ouvre. Entrez ! Et il voit apparaître une vieille femme plus vieille que toutes les vieilles.
Est-ce qu'il y a un conte qui t'aurait marqué et qui t'aurait changé ?
Ah, il y en a plein qui m'ont marqué, qui m'ont changé. Il y a La jeune fille aux mains coupées, il y a Jean de l'Ours, il y a Le berger des étoiles, celui que je vais compter tout à l'heure. Je l'ai créé il y a très longtemps. Et j'ai l'impression que c'est la parole de mes ancêtres. Et cette parole, en fait, c'est la parole de la terre, c'est la parole des Cévennes. Donc il m'est très cher, celui-là. Et il m'a beaucoup changé. Ça a été, bon, c'est un personnage masculin, alors que je suis une femme, mais c'est un personnage masculin qui est au-delà du masculin. C'est qu'il est, il est en lien avec la terre. Et puis il y a beaucoup de personnages féminins. Il y a la Scipionnette aussi. Donc voilà, ce sont des personnages forts, de tradition et de sagesse, de silence et de parole. Puis j'ai écrit un album avec ma nièce qui s'appelle Mélissa Feder, qui s'appelle « Mille cocottes à qui le cru ». Et c'est mon père qui me l'a transmis, mais il l'avait reçu de sa mère, donc c'était un conte oral. Et celui-là, il m'a beaucoup parlé, parce qu'il a l'air de rien. Il a l'air un conte pour enfants, mais c'est vraiment un conte philosophique. Mais il a beaucoup de force, ce conte, même s'il semble naïf. C'est ça la force des contes, c'est qu'ils ont l'air tout naïfs, tout innocents, et en fait, ça va très très loin.
Oui, exactement. Et du coup, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Il y a cet aspect transgénérationnel où c'est capable de toucher les enfants, les adultes, enfin, les vieillards, les ados, tout le monde, parce que chacun y verra sa lecture et ça touchera tout le monde au niveau de l'émotionnel et même au-delà, ça va transcender plusieurs personnes. Mais il n'y a pas de barrière d'âge, du coup.
Non, il n'y a pas de barrière. Et puis, ce qu'il y a de bien dans les contes, c'est qu'il n'y a pas de morale. Alors, on croit qu'il y a une morale, qu'il faut... Non, chacun va prendre ce qu'il a à prendre. Chacun va manger ce qui va être bon pour lui. Donc, c'est de l'instinctothérapie. Mais voilà, donc le fait de mettre une morale, ça enferme. Et les contes sont comme des oiseaux libres, ils ne peuvent pas vivre dans des cages. Donc, c'est pour ça que dans mes peintures, il y a beaucoup d'oiseaux. Parce que ces oiseaux nous amènent vers ce monde onirique. Et là, le personnage du berger des étoiles, c'est un ciblaire qui va aussi être connaît le langage de la volière céleste. Et cette volière céleste, elle nous renseigne vraiment sur le murmure du monde. Et ça, c'est fabuleux.
Oui, du coup, tu parlais justement que tu avais voyagé et que tu étais allée à la rencontre d'autres personnes pour conter et voir d'autres conteurs. À quel point le voyage peut transformer et apporter quelque chose? Et finalement, est-ce que le conte, comme c'est universel, on raconte un peu tous la même chose?
Alors oui, avec des formes et des couleurs différentes. Moi, j'ai beaucoup aimé les voyages parce que souvent, je faisais des contes qui venaient de ces pays-là et j'avais besoin de m'immerger dans ces ambiances, ces odeurs, parce que le conteur va incarner le conte. Donc autant en odeur, en son, en musique, en couleur, en sensation, en goût.
C'est ça, tu as besoin de visualiser pour bien pouvoir t'imprégner de ce que tu vas raconter.
C'est important pour moi. Et puis, cette mise en bouche, c'est l'oralité, c'est-à-dire que c'est tous ces parfums qui sont là. On peut mieux le transmettre, mieux le sentir et mieux le donner. Donc, en fait, le mot et la dernière chose qui va arriver chez le conteur, c'est toutes ces impressions, ces sens. Quand je dis le bon sens, c'est aussi au niveau des sensations qui vont nourrir le conte. Et le mot va sortir avec toute cette nourriture derrière. Donc les voyages m'ont beaucoup aidée, et puis c'est fabuleux de voir tout ce qu'il y a dans ce monde, toute cette magie, pour revenir à des notions universelles où, en fait, malgré toute cette diversité, il y a des choses qui sont en commun et qui nous rassemblent plutôt que de nous séparer, quoi, finalement.
Et on en a bien besoin, du coup, en ce moment. Oui, oui.
C'est canto, quere canto, canto paper yeu, canto per mamio, que t'en leu.
J'ai vu aussi également que tu pratiquais l'art-thérapie, que tu étais art-thérapeute. En quoi le conte peut guérir? Est-ce que, en fait, le conte, finalement, ça serait pas soigner par la parole et guérir par l'écoute?
Alors, la parole, de toute façon, est libératrice, elle est guérisseuse, surtout la parole libre. Hein. La parole libre, ce mot libre, c'est fabuleux. Moi, j'adore la liberté. Hein. Mais donc, la parole libère. Et le conte va donner cette structure. C'est comme un arbre. Moi, je compare vraiment l'arbre au conte. L'arbre, il tient. Là, j'ai vu un chêne qui doit avoir 400 ans. Il a des branches, mais qui sont grosses comme des gros chênes et qui vont vers le ciel. Je me dis, mais par quelle magie ça tombe pas? Alors qu'il y a du vent, il y a de la tempête, il y a de la pluie. Et en fait, c'est parce qu'il est tenu, comme le conte est tenu. Et donc ça, c'est la force du conte qui va faire que on peut s'appuyer dessus, quoi qu'il arrive, quoi. Hein. C'est une valeur étonnante. Et ça libère pour des gens qui ont un esprit ou qui sont tendance à se perdre dans la rêverie. Donc ça leur redonne des racines. hein, des gens qui s'échappent quand on compte, on ne sait jamais s'il y a des gens qui ont une tendance schizophrénique, etc. Donc c'est important d'ouvrir et de fermer le compte. Sinon, la porte est ouverte et on ne sait pas où ils vont. Donc, comme l'arbre, ça va enraciner. Donc la personne, elle peut rêver en toute sécurité. Et là où c'est fondateur et libérateur et guérisseur, c'est qu'on va jouer sur des symboles qui parfois moi m'échappent parce que je ne sais pas tout et je reste très modeste par rapport à tout ça et gare à l'interprétation, hein, parce qu'on fait de l'interprétation sauvage et des fois ça fait beaucoup de mal. Mais la personne va se reconstruire, on ne sait pas trop comment, on la laisse faire. C'est un élément vivant qui va rentrer dans la psyché et qui va faire son travail. Et moi j'ai vu, puisque ça fait des années et des années que je suis des femmes principalement, aussi des hommes, hein, de voir des choses incroyables qui se sont produites et je suis toujours émerveillée. Donc je lui fais confiance d'expérience.
Et il entend le son mélodieux d'une fontaine, un son cristallin.
Et du coup, si on pouvait résumer, pourquoi finalement aller voir du conte et écouter du conte ?
Alors parce que justement, ça va réveiller tout ce qu'on a dit là. Ça va réveiller la part vivante en nous-mêmes, ça va nous ramener à des choses essentielles, universelles, de bon sens, de magie, nous sortir de ce carré dans lequel on est enfermé, rationnel, où on devient parfois fou, mais on croit qu'on est normal, et ramener la vraie folie, celle qui est saine, parce que les fadas, c'est quand même ceux qui ont vu les fées d'un peu trop près, et on en a besoin. Donc soyons fadas, hein. Ça fait du bien, et le conte nous dit soyez fadas, parce qu'en étant fadas, vous serez vivant, quoi. Alors après, écouter du conte, moi, le mot conte, malheureusement, est galvaudé, et on voit de tout. Il y a des gens qui prennent des comptes, alors ils comprennent pas tout, donc ils vont enlever des choses parce que ça leur plaît pas. Et c'est dommage. Hein. C'est dommage parce que quand même, il y a un minimum de connaissances pour pouvoir utiliser les comptes et pour les respecter et pas les dénaturer. Et puis dans la façon de dire, c'est pas en récitant un conteur, il va pas apprendre son texte par cœur à la virgule près, sinon on perd cette magie de co-création avec le public. Donc essayez de trouver des conteurs qui font leur métier comme de vrais conteurs. Et là, vous allez voir que vous allez vous régaler.
Je n'en doute
Je
pas.
Je l'espère, en
oui.
tout cas.
Aux enfants.
Voilà. Ah, c'est joli, une descente aux enfants. Ah,
magnifique. Oui, parce que écouter comme ça, on est tellement occupé dans la vie que finalement, c'est vrai que si on n'a pas l'habitude, si on n'écoute pas, s'il n'y a personne qui nous raconte des choses comme ça, un conte... Là, on s'est retrouvé comme en étant enfant à écouter un conte, voilà. Comme le sont mes petits-neveux, les enfants d'aujourd'hui, quoi. C'est beau. Merci.
Merci beaucoup.
Et du coup, la dernière question, c'est quels sont tes futurs projets et où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, mes futurs projets, il y en a plein. Donc, j'ai un album que je vais éditer bientôt. Donc, je suis en train de travailler dessus, illustré. Cet été, je vais continuer mes tournées un peu partout dans la nature. Moi, j'adore compter dans la nature. Hein. J'étais au Parc National des Cévennes, je faisais le Festival Nature il y a longtemps. Et c'est des souvenirs extraordinaires. Donc là, je continue dans cet élan. Et puis d'exposer aussi, ça me plaît, la peinture, parce que c'est une autre façon de raconter ces choses-là. Et ça, c'est super. Donc voilà, plein de créations de contes à venir.
Super, que de gros projets.
Voilà.
Je vous remercie du coup d'avoir écouté cet entretien. Merci Hélène.
Merci beaucoup Lucie.
En espérant que cela vous ait donné envie d'aller voir et écouter des conteurs et conteuses. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute sur les ondes Radio Bartas au 107 FM.